الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On est rendu donc dans le cours aujourd'hui, le cours 102 dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim. Le cours 102, dans ce livre qui explique les preuves de l'interdiction d'imiter les kuffars. Hein? Et on est toujours dans les preuves de l'ijma', les preuves du consensus des sahaba. Hein? Et on a mentionné des preuves à ce sujet-là de plusieurs d'entre les khulafa ar-rashidin. Et là, on a mentionné maintenant des preuves des paroles des sahaba, hein, différents sahaba qui ont mentionné ces propos-là qui indiquent que pour eux, c'est quelque chose d'établi et de connu que, yani, on ne doit pas imiter les kuffars. Donc j'ai dit qu'on est dans le cours 102, mais je me suis trompé, on est dans le cours 103. Parce que j'avais pas bien indiqué le début du cours d'aujourd'hui. Donc au dernier cours, on a mentionné le hadith. C'est le hadith rapporté selon Abu Daoud, qui indique que, il dit, حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك حدثني فحدثني أخي المغيرة قال أنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليها وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عدمها فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. Donc qu'est-ce qu'il explique ici? Il cite un hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Selon Al-Hassan, hein, Al-Hassan ibn Ali, il dit que Yazid ibn Harun nous a rapporté, que Al-Hajjaj ibn Hassan nous a informé, qu'il a dit, hein, il a dit, nous sommes rentrés chez Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, le grand compagnon, celui qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein. Et il dit, nous sommes rentrés chez Anas ibn Malik, et mon frère, Al-Mughira, m'a dit, hein, tu étais à ce moment-là petit. Il m'a dit, tu étais à ce moment-là petit, et tu avais deux couettes sur le côté, comme ça. Comme les couettes des juifs. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Anas ibn Malik? Il a frotté sa tête et il a invoqué la bénédiction sur lui. Puis il a dit, coupez-lui ses deux couettes. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de la mode des juifs. Et il a indiqué que la raison de l'interdiction, pourquoi il a interdit qu'il ait ces deux couettes-là, c'est pour ne pas ressembler aux juifs. Oui, il faisait ça même à cette époque-là. Hein? Et donc, il dit, ça c'est une preuve que c'était interdit. Et la raison pourquoi c'est interdit, c'est parce que c'est quelque chose qui ressemble à la façon dont les juifs mettent leurs cheveux. Donc même dans la façon de mettre nos cheveux, on n'a pas le droit d'imiter les kuffars, que ce soit des juifs ou autres. Et c'est ça qu'on veut établir maintenant. Donc, le cheikh, il dit... Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit وَفُهْرُ الْيَهُودِ. Oui, dans l'autre hadith qu'on avait lu auparavant, on avait mentionné également وَفُهْرُ الْيَهُودِ. Et فُهْرُ الْيَهُودِ, c'est leurs écoles. Donc le Cheikh, il dit يَعْنِي أَنَّ هَذَا اللَّفْضُ يُطْلَقُ عَلَى أَمَاكِنْ دِرَاسَتِهِمْ وَهَذَا الَّذِي اسْتَنْكَرَهُ عَلِي ابْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه لما رأى قوما قد سدلوا فقال ما لهم كأنهم خرجوا من فهورهم يعني فعاب التشبه باليهود في لبسهم حيث أنهم كانوا يزدلون إذا ذهبوا إلى مدارسهم. Donc il dit ici que Ali ibn Abi Talib, il a vu des gens qui portaient leurs vêtements d'une manière qui ressemble à celle des juifs. Alors Ali ibn Abi Talib le dit, ça c'est la façon qu'ils s'habillent quand ils vont dans leurs écoles, les juifs. Alors il a critiqué ça, il n'a pas aimé cette façon, puis il leur a dit, pourquoi ils s'habillent de cette façon? On dirait des juifs qui sortent de leurs écoles. Donc il a blâmé la ressemblance aux juifs dans leur façon de s'habiller, parce qu'ils faisaient un as-sadl. On a expliqué au dernier cours que as-sadl, c'est-à-dire ils portent un vêtement sur leurs épaules et ils le laissent ouvert en avant. Hein? Et il dit donc ça c'est comme ça qu'ils s'habillaient lorsqu'ils allaient à leurs écoles. Il dit قوله وأما ما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم سبق الحديث عن ذلك وعلل بأنه من فعل المجوس عند عبادة النار. نحن منهيون عن التشبه بالمجوس أيضا. فالأصل أن لا يتلثم المصلي إلا إذا كان لحاجة. Donc il y a un autre exemple aussi qu'on a mentionné dans le cours précédent parmi les narrations qu'on a citées, le fait qu'il est détestable et interdit de se couvrir la bouche pendant la salat, pendant qu'on prie. Et la raison qui a été mentionnée pour ça, c'est parce que c'est l'exemple de ce que font les majous. Et les majous, c'est les adorateurs du feu. Eux, quand ils prient, ils mettent quelque chose sur leur bouche. C'est ce qu'on appelle en arabe « at-talathum ». At-talathum, ça veut dire cacher le visage. Donc, ils se cachent la bouche avec un quelque chose. Donc, il dit l'interdiction de cacher la bouche pendant la salat, c'est pour éviter d'imiter les majous, ok? Et c'est comme les zoroastriens, on dit les majous en français, c'est les zoroastriens, et il y a aussi il y a une autre religion, je pense, ça s'appelle le jainisme. En tout cas, j'ai vu des photos sur cette religion-là, et eux aussi ils se couvrent la bouche quand ils font leur prière. Tout ça c'est contraire à la sunna, contraire à l'islam. Il dit wa qawluhu fa'ala hadha tadhharu munasabatu al-jam' bayna an-nahy 'an as-sadl wa at-talathum fi as-salah wal maqsud anna as-sadl fihi mushabahatun lil-yahud wa taghdiyatu al-fam fi as-salah fiha mushabahatun lil-majus wa nahnu manhiyuna 'an at-tashabbuh bil-kuffar 'umuman. Donc il dit ici, on voit la raison pour laquelle on a mentionné les deux choses, le fait de faire as-sadl, hein, comme on a dit tout à l'heure, le vêtement que les juifs portent, ils laissent ouvert en avant, ils mettent ça sur leur épaule, ils le mettent sur les épaules et ils laissent ouvert en avant. Ça c'est quelque chose qui est interdit, parce que ça ressemble aux juifs. Et at-talathum, c'est-à-dire de cacher le visage, de fermer, de... Hein? Comme les Touaregs par exemple, hein? Vous connaissez les Touaregs? Tawariq, ceux qui portent les turbans, puis ils ont toujours le visage caché. On n'a pas le droit de prier comme ça. On n'a pas le droit de prier dans cette façon-là. Donc quand tu pries, tu dois découvrir ton visage. C'est des berbères en fait. Oui. Oui, c'est-à-dire les Touaregs, ils font ça, mais il n'y a pas juste eux qui font ça, il y a les autres, là, parce que les Touaregs, eux, ils cachent leur visage, mais c'est pas la même chose que les Majous. Les Majous sont une autre religion, mais les Touaregs, en général, sont des musulmans, hein, sauf que parmi eux, il y en a beaucoup qui sont, par exemple, pas sur la sunna, ils ont des bid'ah, ils ont peut-être des innovations, des bid'ah, des choses comme ça, d'accord? Et ça, ce qui est bizarre avec les Touaregs, c'est que... Ouais, ben Touaregs, justement, la Volkswagen. Non, en fait, c'est qu'ils se cachent le visage, mais les femmes ne cachent pas leur visage. C'est ça qui est bizarre avec eux. Ouais, si c'est à cause du sable, bon, ça c'est normal, mais même quand il n'y a pas de sable, ils le font quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Allah nous ta'ala. At-talathum en arabe. Des fois, ils disent par exemple Al-Faris al-Mulatham. Al-Faris, le cavalier, Mulatham, celui qui a son visage caché. Hein? Bon, il dit wa qawluhu, donc c'est ça. Il dit la raison pourquoi tout ça c'est interdit, le fait de cacher le visage, tout ça c'est pour éviter d'imiter les kuffars de façon générale, et ça c'est interdit. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan il dit wa qawluhu ma'a anna fi kullin minhumā ma'nan akhar yujibu al-karaha, يعني ان هناك illa غير المشابهة. وعند الأصوليين يجوز تعليل الحكم بعلتين فأكثر، بل يكون أقوى لتأكيد الحكم. وإذا علل بأنه لكشف العورة علل بأنه مشابهة لليهود، وعلل بأنه مشابهة لليهود، فلا مانع من العلتين فيه. Donc il dit que Cheikh Al-Fawzan il explique comme Ibn Taymiyyah il dit que parfois quelque chose peut être interdit pour plus qu'une raison. Il peut y avoir plus qu'une raison qui prouve l'interdiction de quelque chose. Comme par exemple, à propos de As-Sadl, on a dit qu'une des raisons pourquoi les ulama considèrent que c'est interdit, c'est parce que ça laisse paraître la aura. Ça laisse paraître les parties intimes. Donc ça, c'est une preuve, c'est une raison pourquoi la chose est interdite. Mais ça ne veut pas dire que l'autre raison est exclue. L'autre raison qui est le fait que ça ressemble ou que c'est une imitation des kuffars. Ça aussi, ça prouve le verdict de l'interdiction aussi. Donc, les ulama de Usul, ils disent qu'il est permis qu'une chose soit, disons, justifiée par plus qu'une seule raison. Ça veut dire que quelque chose peut être interdit pour plus qu'une raison. D'accord? Comme par exemple, quelque chose peut être interdit, comme dans le cas qu'on a vu ici. C'est interdit d'un côté parce que ça laisse paraître la aura, puis deuxièmement parce que c'est une imitation des kuffars. C'est comme par exemple, une femme, une femme musulmane qui marche dehors en mini-jupe. On va dire ça c'est haram. Pourquoi? Parce que de un, ça couvre pas la aura, on laisse paraître le corps, et deuxièmement, en plus, c'est une imitation des femmes mécréantes. Donc les deux raisons les deux raisons viennent justifier ou supporter le verdict de l'interdiction. D'accord? Ça veut dire que quelque chose peut être interdit pour plus qu'une seule raison. Et ici donc c'est pour ça qu'ils ont mentionné ces deux raisons là, le fait de dévoiler la aura et le fait de ressembler aux juifs, et il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait plus qu'une raison pour que quelque chose soit interdit. Ensuite, il dit وقوله فهذا عن الخلفاء الراشدين أما ساحر الصحابة رضي الله عنهم فكثير يعني أن ما ذكره عن الخلفاء فعن واحد منهم وهو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأما ما ورد عن غيرهم من الصحابة فكثير ومن ذلك أن حذيفة لما دعي إلى وليمة ورأى شيئا من زي العجم في هذا الاجتماع خرج من المكان وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فدل على أنه لا يجوز التشبه بالكفار في الحفلات وفي غيرها ونحن نجد اليوم أن الذي يتشبه بالكفار ويقلدهم في الحفلات والمناسبات يكون من المتمدن والمتحضر في عيون بعض الناس وأما الذي يحافظ على السنة وعلى مخالفة أصحاب الجحيم فهو الرجعي غير المتحضر. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il dit que là, Ibn Taymiyyah, il dit, on a mentionné les paroles des khulafa rachidin. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum. Et maintenant, on va mentionner des paroles d'autres dans les sahaba, d'autres parmi les sahaba, et il y en a beaucoup de leurs paroles à ce sujet-là, au sujet de l'interdiction d'imiter les juifs et les chrétiens, et les kuffars en général. Et il dit que l'exemple qu'il a cité, il a cité parmi les exemples, la parole de Hudhayfa, radiyallahu anhu, Hudhayfa ibn al-Yaman. Une fois, il a été invité dans un walima, une fête de mariage. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu que les gens s'habillaient comme les kuffars. Alors il est sorti. Et il a mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ressemble ou qui imite un peuple, il est un des leurs. Ça, c'est la preuve qu'il n'est pas permis d'imiter les kuffars, même dans leurs fêtes. Il dit que, alors, Cheikh Al-Fawzan, il dit, alors qu'aujourd'hui, celui parmi les musulmans qui imite les kuffars et qui les suit aveuglément, dans les fêtes et dans les autres occasions, il le considère comme c'est celui qui est civilisé, qui est moderne, hein. Tandis que celui qui s'accroche à la sunna et qui reste en accord avec la sunna, puis qui contredit les gens de l'enfer et les kuffars, il le considère comme si, ah, lui, il est retardé, il n'est pas évolué, il n'est pas civilisé, il n'est pas moderne, hein. Allah musta'an. Le cheikh, il dit, قَوْلُهُ سَأَلَ رَجُلٌ أحتقن يعني أن ابن عباس لما سأله الرجل هل يحتقن يعني هل يعمل الحقنة في الشرج يعني الحقنة المقصود منها تطهير المعدة فيلزم من عملها كشف العورة فابن عباس منع من ذلك مظنة كشف العورة وهو من التشبه بالكفار في كشف العورات والتساهل فيها. Donc il a mentionné aussi la parole de Abdullah ibn Abbas lorsqu'on lui a posé la question à propos de celui qui veut faire un lavement ou un traitement pour nettoyer son intestin ou quoi, son estomac, il veut nettoyer son estomac ou quoi, il prend un médicament ou quelque chose qui fait que la personne va faire ce traitement là. Et il dit que les koufars, ils le font et ça nécessite de montrer ses parties intimes ou de ne pas couvrir les parties intimes pour faire ce traitement-là. Alors Ibn Abbas, il l'a interdit par crainte que les parties intimes soient découvertes. Et il a dit que ça aussi, c'est une ressemblance des koufars parce que les koufars, eux, ils n'ont pas de gêne de montrer leurs parties intimes devant les gens. Hein? Et ça, tu le constates chez les koufars, ils le font tout le temps. Et surtout quand tu vois, par exemple, soit quand ils vont dans les vestiaires, quand ils vont faire des sports ou des activités comme ça, hein, ils n'ont pas de gêne de se laver devant les gens, de se montrer leur nudité. Et à l'époque, quand ils allaient dans les bains, des bains publics, ils faisaient ça. Ils n'ont pas de gêne. Et ça, c'est une des caractéristiques des koufars, qu'ils n'ont pas de honte de se montrer et ils prennent ça comme vraiment à l'aise là. Ils prennent ça à la légère, tandis que les musulmans non. Le cheikh il dit وقوله دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة وقال أنت يومئذ غلام لك قرنان يعني أن الحديث يدل على ربط النهي بالعلة فأنس بن مالك لما رأى غلاما له قرنان من الشعر أمر أن يحلق ثم علل ذلك فقال هذا زي اليهود ونحن منهيون عن التشبه باليهود حتى في الصفة التي عليها شعورهم فلا يجوز أن نعمل قرنان أو قرونا كقرونهم لأن هذا من أفراد التشبه بهم والقاعدة العامة منع التشبه بهم عموما لما يجره ذلك من محبتهم ومن استساغ من استساغة عملهم أو أعمالهم وهذا مما يفضي إلى تغيير دين الإسلام شيئا فشيئا. Donc ici il parle de la parole d'Abdullah, de Anas ibn Malik. Lorsqu'il a vu l'enfant avec les deux couettes et qu'il a ordonné qu'on les coupe, il dit parce que ça ressemble aux juifs. Et donc ça, c'est la preuve qu'on n'a pas le droit d'imiter les juifs dans leurs caractéristiques, même dans leurs cheveux. Et ça me rappelle les exemples de ceux parmi les musulmans qui font parfois des dreads ou qui font des rasta, hein, ils font des dreadlocks comme les rasta et les dreads. Donc ça, c'est également une imitation des kuffars. Bien sûr, parce que les musulmans, ils font pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça. Et les sahaba, ils faisaient pas ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, on dit qu'à un moment donné, des fois, il avait fait des tresses. Mais c'est pas, des tresses comme ces gens-là. Il avait fait 3 tresses, hein, dans ses cheveux. Et ça, c'était la coutume. Même les Arabes, avant l'islam, ils faisaient ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. En ce qui concerne les dreads et tout ça, ça c'est clair que c'est une imitation des koufars. Parce que même les dreads, dans leurs explications, pourquoi ils font des dreads comme ça, ils disent que ça c'est pour imiter les juifs. Parce qu'ils disent que les Rasta, ils considèrent que ce sont eux les vrais juifs. Déjà à la base, ils disent nous, on est les vrais juifs. Hein? Et ils considèrent que en faisant ça, ils mettent en application la religion juive. Donc si tu les imites et que toi tu veux faire des dreads comme eux, alors dans ce cas-là tu imites, hein, les juifs. Ou bien tu imites d'autres peuples parmi les mouchriquines et les koufars et les animistes qui ont cette pratique-là, et ça ne fait pas partie de la pratique des musulmans. D'accord? Ensuite, il cite une autre narration, d'autres narrations. Il dit « Warawa ibn Abi Asim, haddathana Wahb ibn Baqiyya, حدثنا خالد الواسطي عن عمران ابن حدير عن ابن مجلس أن معاوية رضي الله عنه قال إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. يشير معاوية رضي الله عنه إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة ابن عبيد أنه أمر بقبر فسويه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها رواه مسلم. وعن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أيضا قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته رواه مسلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. Donc il dit que c'est rapporté selon Ibn Abi Asim. Il dit, Wahb ibn Baqiyya nous a dit que Khalid al-Wasiti a dit, selon Imran ibn Hudayr, selon Ibn Majlis, selon Muawiyah, radiyallahu anhu, qui a dit, le fait de niveler les tombeaux, hein, les tombes, fait partie de la sunna. Niveler, ça veut dire quoi? Ça veut dire de les raser au niveau du sol, pour que les tombeaux ne soient pas surélevés. Pour que les tombeaux soient nivelés au niveau du sol. Il a dit de niveler les tombes, ça fait partie de la sunna, parce que les juifs et les chrétiens ont surélevé les tombeaux, ils les ont mis plus haut, et il dit ne leur ressemblez pas. Hein, ne leur ressemblez pas. Et il fait allusion, Muawiyah radiallahu anhu fait allusion à ce que l'imam muslim a rapporté dans son sahih. Selon Fadala ibn Ubayd, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'une tombe, hein, en fait il dit Fadala, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il est passé près d'une tombe, il a vu que la tombe était surélevée, hein, la tombe était au-dessus du sol, élevée, alors il a ordonné qu'elle soit rasée, nivelée. Puis il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ordonnait de niveler les tombes. Hein? Et ça c'est rapporté par l'imam muslim. Et ensuite il dit, et Abu al-Hayyaj al-Asadi, il a dit, selon Ali radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de ne laisser aucune tombe surélevée excepté que je la nivelle, hein, que je la rase. Et de ne laisser aucune statue excepté que je la détruis. Hein? Et ça c'est rapporté par l'imam muslim. Et il dit qu'on va, il dit, on, et nous, et Ibn Taymiyyah dit, et nous allons mentionner, Inch'Allah, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien plutôt que c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As qui a dit lui-même, pardon, qu'il a dit, quiconque habite ou reste dans les pays des mouchriquins et célèbre leurs célébrations et leurs fêtes, et leur carnaval et autres, jusqu'à ce qu'il meure, il sera ressuscité avec eux au jour de la résurrection. Il sera ressuscité avec eux au jour de la résurrection. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il explique toutes ces différentes narrations. Il dit, en ce qui concerne la parole de Muawiyah, radiallahu anhu, au sujet de niveler les tombeaux, il dit, « وَهَذَا حَدِيثٌ آخَرْ فِيهِ نَهْيٌ » عن فعل معلل بالتشبه باليهود وقد علل أو علل معاوية الصحابي الجليل منع رفع القبور لأن اليهود تفعله حيث يرفعون القبور وهذا غلو هذا غلو في الأموات ووسيلة من وسائل الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته فالقبور تسوى ولا ترفع عن الأرض إلا قدر شبر من أجل أن تعرف أنها قبر أنها قبور فلا تداس ولا يزاد عليها ولا يزاد على ذلك ويمنع رفع القبور كذلك لأن فيه مشابهة لليهود مشابهة اليهود والنصارى فهم يرفعونها ويزوقونها حتى تعبد من دون الله مع كون ذلك من وسائل الشرك. Donc le cheikh il dit que cette parole ici, Muawiya il mentionne que les tombes doivent être nivelées, rasées au niveau du sol, et que c'est ça la sunna. Et il indique que l'interdiction de surélever, d'élever les tombeaux, c'est la raison de l'interdiction, c'est parce que c'est une ressemblance des juifs et des chrétiens. Et il mentionne ici que c'est ce que faisaient les juifs, ils élèvent les tombes, et que ça c'est de l'exagération envers les morts, ça amène les gens à tomber dans le shirk. C'est des causes qui, des moyens par lesquels les gens, par la suite, ils tombent dans le shirk à cause de ça. Et il dit que même Ali radiallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de détruire toute statue et de niveler toute tombe surélevée. Donc, ça c'est rapporté, par l'imam muslim, c'est un hadith authentique. Donc, les tombeaux doivent être nivelés. Doivent être rasés. Et le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, elle ne peut pas être surélevée plus que la distance d'une main. Chibre. C'est-à-dire que quand tu remets la terre sur le trou, pour fermer le trou de la tombe, quand tu as enterré la personne, ça ne doit pas dépasser la butte de terre que tu laisses à la fin. Doit pas dépasser la distance d'une main à peu près, de la hauteur d'une main. Et la raison pourquoi on la laisse de cette hauteur-là, c'est pour que les gens puissent savoir qu'il y a une tombe à cet endroit-là. Comme ça, ils vont pas marcher dessus. Ils vont pas manquer de respect à cette tombe. Mais on doit pas ajouter rien d'autre à ça. On doit pas rajouter rien d'autre à ça, ni construire quoi que ce soit par-dessus. Ça doit être laissé tel quel. Et il dit donc que ça c'est l'interdiction d'élever les tombeaux. Et et une autre raison pour laquelle c'est mentionné, pourquoi c'est interdit, c'est parce que, non seulement parce que c'est une imitation des juifs et des chrétiens, mais également les chrétiens, ils l'élèvent et ils embellissent leurs tombeaux, ils les décorent. Ils font des pierres tombales et puis avec du marbre et sculptées avec des dessins, puis ils mettent des fleurs, ils mettent plein d'affaires eh bien tout ça, même parfois ils mettent des mausolées par-dessus, ils vont mettre des gros monuments, hein. C'est plus qu'ils ont de l'argent, plus qu'ils font des grosses constructions, comme si, pour montrer, comme si on dirait que plus que la construction est grande, pour dire, ah, oh, cette personne-là était plus importante. Hein, elle a plus de valeur. Alors que ça ne veut rien dire. Hein? Et le cheikh, il dit donc qu'à la fin, les gens ils commencent à les adorer en dehors d'Allah. Et donc, ça devient une cause pour le shirk. Hein? Et il dit ensuite que le compagnon, c'est Fadala, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné. Non, ça c'est la parole de Ali radiallahu anhu. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de ne laisser aucune tombe surélevée sans la niveler. Il dit يعني لا يجوز أن يرتفع القبر عن الأرض إلا شبرا وسواء كان ترابا أو بناء ولا يوضع على القبر شيء إلا من ترابه. Donc il dit il n'est pas permis d'élever, de monter la tombe plus que la hauteur d'une chibre, d'une main, et peu importe que ce soit de la terre ou que ce soit une construction ou quelque chose qu'on a bâti par-dessus ou qu'on a mis par-dessus, et on n'a pas le droit de mettre sur la tombe ou l'endroit où on a enterré la personne, on n'a pas le droit de mettre autre chose que la terre, hein, de ce trou-là qu'on a mis. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre d'autre chose que la terre. Il ne faut pas que ce soit du marbre ou des pierres ou autre chose. Non, ça doit être la terre qu'on a creusée, on la remet et c'est tout, rien d'autre. Ben, il y a aussi que c'est du gaspillage, tu gaspilles de l'argent. Quand tu vois les koufars, ils vont payer, par exemple, déjà nous dans l'islam à la base on n'a pas de cercueil pour l'enterrement. On enterre la personne dans un linceul, hein. On le lave, on le met dans un linceul et on le met dans la terre. Et on remet la terre et c'est fini. Les koufars, eux, non. En plus, ils mettent ça, le corps, dans un cercueil. Le cercueil, parfois, ils vont payer des grosses sommes d'argent pour ce cercueil-là. Surtout que c'est des cercueils, parfois, qui sont en une matière comme en métal ou en bois, mais pas n'importe quel bois. Des fois, ils choisissent du bois vraiment plus dispendieux, tu vois, et c'est comme si pour dire ah, oh, mais la personne elle a bien mérité ça quand même, elle a fait du bien, elle était bonne, donc il faut lui payer quand même un beau cercueil là, on va lui faire un beau enterrement. Et ils vont dépenser peut-être 20 000 dollars, même 30 000 dollars pour un enterrement, alors que cet argent là les gens pourraient l'utiliser pour des choses bien plus bénéfiques. Et ça pourrait être même profitable, peut-être pour le mois, si on utilise cet argent-là pour donner aux pauvres, ou pour faire sadaqa, ou nourrir, ou bien faire d'autres bonnes actions. Hein? Ah oui. Allah musta'an. Ah ben c'est grave. Tu vois, d'habitude, là, ils font le MCQ, ils font des. Pas la MCQ, ICQ. Quand ils font les enterrements, ils mettent une boîte de bois, là. Une boîte vraiment simple, en du bois vraiment le plus basse qualité possible, pour respecter les normes canadiennes, parce que ici c'est interdit d'enterrer la personne directement dans la terre avec le linceul, comme dans la sunna. Ils obligent de mettre la personne dans une boîte, hein, dans une boîte de bois. Donc c'est pour ça c'est une des conséquences, comme on l'a mentionné déjà plusieurs fois, du fait de vivre parmi les koufars. Hein? Il y en a que tu dis ah, moi non. Mais il y a beaucoup de musulmans, quand ils meurent, ils disent envoyez-moi dans mon pays pour m'enterrer. Hein? Envoyez-moi en Algérie, envoyez-moi au Maroc, envoyez-moi à tel ou tel pays musulman, je veux mourir, je veux être enterré là-bas, je veux pas être enterré ici. Dans ce cas-là, pourquoi tu voulais vivre ici? Tu veux pas être enterré ici, mais par contre vivre ici, ça te dérange pas? C'est bizarre ça, hein? Donc qu'est-ce qui est plus grave, de mourir ici et d'être enterré ici, ou de vivre ici? Qu'est-ce qui est plus dangereux? Une fois que t'es mort, ça y est, c'est fini, hein? ta vie elle finit, il n'y a plus rien après. Que tu sois en Chine ou ailleurs. Même les sahaba, des fois, il y en a parmi eux qui sont allés dans le djihad contre les différentes nations, quand ils sont partis pour appeler les gens à l'islam, eh ben, il y en a qui sont morts dans des terres de Kufr et on les a enterrés là-bas. Les sahaba, ils n'ont pas dit ramenez mon corps à Médine, ramenez mon corps à la Mecque, je vais me faire enterrer là-bas. Hein? Yani, ça, je dirais pas que ça rentre dans l'innovation, mais ça rentre dans. Yani, des fois, les. Comme si je comprends les gens qui font ça, pourquoi ils veulent se faire entrer dans un pays musulman, c'est bien. Mais en même temps, si tu vois que ça ramène des dépenses inutiles et qu'en même temps ça devient lourd pour les gens, surtout ici, parce que je me rappelle, comme j'expliquais une fois ça aux frères, il y a une semaine, et les gens, quand quelqu'un meurt, tout le monde veut aider parce que tout le monde dit, bon, moi, quand ça va être mon tour, moi aussi, je veux qu'on fasse ça pour moi, donc je vais le faire pour quelqu'un, moi aussi. Donc, quelqu'un est mort, il y a des gens qui sont venus à la mosquée, ils ont dit, pouvez-vous nous aider, on ramasse de l'argent pour repatrier le corps d'un tel, il est mort. Alors là, les frères, tout le monde a donné. Ça coûtait à peu près 6 000 $ pour ça. Et là, quelques jours après, un autre est mort encore dans la même semaine. Et là, il est venu encore pour demander de l'argent. Bon, la première fois, les gens, ils ont donné. La deuxième fois, ils ont dit, bon, là, ça fait 2 fois dans la même semaine, ça commence à être beaucoup. Hein? Donc, c'est pour dire, de plus en plus, il y a des musulmans qui vivent ici. Donc, ça veut dire de plus en plus, il y en a des gens qui vont mourir ici. Et de plus en plus, il va falloir justement, si ils ne veulent pas se faire enterrer ici, qu'ils commencent à réfléchir à ça, à faire un choix, comme tu dis. Et nous, comme tu dis tout à l'heure, Hassan, c'est la vérité, on oublie la mort. On pense juste à la mort quand quelqu'un à côté de nous ou proche de nous qui est mort, parmi nos frères, parmi nos amis. Mais en dehors de ça, on ne pense pas à la mort. Quand j'étais à Mecca et à Médine, je me rappelle, je suis allé faire la Umrah, quand je suis parti, c'est une des choses qui m'a le plus touché, peut-être, une des choses qui m'a vraiment fait réfléchir, qu'après chaque prière, on entend « As-salatu ala al-amwat », la prière pour les morts. Après chaque prière, tu pries Fajr, tu entends « As-salatu ala al-amwat », tu pries le Dhuhr, « As-salatu ala al-amwat ». Tu pries le dhuhr, le asr, le maghrib, l'isha, après chaque prière, as-salat ala al-amwat, puis on fait janaza, après chaque prière on fait janaza. C'est comme s'il n'y a pas une prière qu'il n'y a pas une janaza, presque. Quand tu n'entends pas as-salat ala al-amwat, après la salat, c'est comme tu dis, hey, c'est bizarre, il n'y a pas de janaza aujourd'hui. Mais maintenant ici, nous c'est le contraire, parce qu'il n'y a jamais de janaza. La seule mosquée où ils font les janazes, c'est ICQ. Hein? Et puis si tu ne vas pas prier là-bas, tu ne vas jamais savoir. Hein? Tu ne vas jamais voir une janaza. Donc ça veut dire qu'on ne pense pas à la mort. Hein? On n'est pas conscient de ça. Allah al-Musta'an. Donc tout ça c'est pour dire que ça nous rappelle en même temps. Hein? Ça nous rappelle en même temps cette chose-là. Donc le cheikh il dit ensuite... Donc, on ne doit rien rajouter sur la tombe. Et il dit wa sanadhkuru insha'Allah an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu annahu qal man bana bi bilad al-mushrikin ay anna Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rawa an al-rasul sallallahu alayhi wa sallam anna man bana fi ard al-mushrikin وصنع نيروزهم ومهرجانهم فهو منهم ومعنى بنى أي استوطن في بلاد المشركين من غير ضرورة وغير مظهر لدينه لأنه يختلط بهم وتتوطد العلاقة بينه وبينهم وربما تنازل عن كثير من أمور دينه أو ضيعها بسبب إرضائه لهم وهذا بالضرورة بالضرورة يحمله على مشاركتهم في أعيادهم ومناسباتهم كالنيروز، ويكون في أول الربيع، والمهرجان يكون في أول فصل الخريف، فهما عيدان للمشركين، فلا يجوز للمسلمين أن يشاركوا المشركين في أعيادهم. Donc le cheikh il explique, il dit que Abdullah ibn Amr ibn al-As il a dit dans une des paroles qui lui est rapportée de lui que celui qui s'installe dans la terre des mushrikins et qui fait leur Nehruz et leur Maharajan. Un Nehruz ou un Maharajan, c'est des fêtes chez les Majus ou bien chez les mushrikins, comme le Noël, le jour de l'an, la Pâque, toutes ces fêtes-là. Donc, tu vas habiter chez les mushrikins, tu commences à célébrer leurs célébrations et leurs fêtes. Ça dit que le cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, tu vas être ressuscité avec eux. Pourquoi? Parce que, il dit, tu t'es installé, t'es allé vivre dans leur pays, avec les mushrikins, sans qu'il n'y ait aucune nécessité de le faire, et sans montrer ta religion, sans pratiquer ouvertement ta religion, et tu te mélanges avec eux, et tu commences à créer des relations avec eux, et peut-être même qu'à cause de ça, tu vas être obligé de faire des compromis dans beaucoup d'aspects de ta religion. Et à cause de ça, tu vas perdre ta religion. Parce que tu veux leur faire plaisir, tu veux les satisfaire. Et donc, ça t'amènera nécessairement à participer avec eux dans leurs fêtes, et dans leurs occasions, et dans leurs célébrations. Comme un Nehruz, au début du printemps, et Al-Mahrajan à l'automne. Donc ça, c'est des fêtes chez les mushrikins. Donc il dit que il n'est pas permis aux musulmans de participer à Nehruz ou à Mahrajan. C'est des fêtes qui existaient chez les mushrikins. Donc il dit que ce n'est pas permis chez les Perses en Iran, dans ces coins-là, ils fêtaient ces fêtes-là. Il donne ça comme exemple. Donc il dit, tu n'as pas le droit de participer avec eux dans leurs fêtes. Et le cheikh il dit, bal inna lil muslimina aidain khassain bihima. Donc Nehruz ou Mahrajan, c'est pas obligatoire que ce soit ces noms-là. N'importe quelle fête des koufars, ça rentre là-dedans. C'est interdit. Et le cheikh il dit, les musulmans ils ont deux fêtes, deux Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et elles viennent après deux parmi les piliers de l'islam, Eid al-Fitr qui vient après le jeûne du Ramadan et Eid al-Adha qui vient après le Hajj. Et dans le Hajj, tu te tiens à Arafat et tu fais les autres rites qui sont reliés à ça. Donc le cheikh dit fahuma munasabatan diniyatan. Donc c'est deux occasions qui sont reliées à la religion en islam. Nos célébrations, c'est ça. C'est des célébrations religieuses. C'est pas juste yani laysata li mujarrad al-lahw wal-la'b wal-mirah. C'est pas juste pour jouer, pour s'amuser puis se réjouir, non. Et il dit wa innama huwa shukru lillah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement pour remercier et montrer la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lidhalika yusalla feehima salat al-Eid. Et c'est pour ça que dans ces deux fêtes on fait la salat, la prière de Eid. Wa fi Eid al-Fitr tukhraju sadaqat al-Fitr. Dans la prière de Eid al-Fitr, on fait sortir la zakat al-Fitr, sadaqat al-Fitr. Et dans Eid al-Adha, on fait le sacrifice. Dans Eid al-Adha, on fait le sacrifice. Wa huma yawma farhin yawma farahin wa ta'atin wa shukrin lillah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont deux jours de réjouissance, d'obéissance et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. فيجب الاستغناء بأعياد المسلمين عن أعياد المشركين. Donc on doit se passer complètement des fêtes des mushrikins et se suffire des célébrations des musulmans et de l'islam. Il dit والحاصل أن الذي يقيم في بلاد المشركين إقامة استيطان فإنه تسري عليهم أمورهم فيصنع مثل ما يصنعون في أعيادهم لأنه لا يستطع ولا يصبر على الاستقلال بنفسه دون الاندماج فيهم
أو أنهم هم يلزمونه ذلك ويضطرونه إلى هذا الشيء، كما أن المشركين ألزموا من لم يهاجر من الصحابة أن يخرج معهم إلى بدر، وقد ذكر الله قضيتهم في القرآن. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'il dit là, c'est très important pour nous. Il dit que, en résumé, on peut dire que celui qui s'installe chez les mouchriquins dans le but de vivre parmi eux, eh bien c'est sûr que leurs règles vont être appliquées sur eux. Leurs règles vont s'appliquer sur eux. Et donc ils vont faire leur fête. Et il dit qu'il ne va pas être capable de s'empêcher ou de se séparer d'eux et d'être indépendant. Hein, de leur façon d'être, de leur façon de vivre. Il va être obligé de s'intégrer, hein, de s'intégrer parmi eux. Et ou bien, soit que lui, il va être obligé de le faire de lui-même, ou bien eux vont lui imposer de le faire. Ils vont le forcer à faire cela. Et donc, la même chose que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les mouchriquins à Mecca ont voulu sortir pour combattre les musulmans à la bataille de Badr, il y avait à Mecca des musulmans qui vivaient là-bas et qui n'avaient pas fait la hijra, qui n'avaient pas été vivre à Médine. Et ils ont forcé, les mouchriquins ont forcé ces musulmans-là à venir avec eux pour combattre les musulmans. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça à leur sujet dans le Coran. Donc on voit ça fait partie des conséquences du fait de vivre parmi les mouchriquins. Donc on va s'arrêter ici pour qu'est-ce qu'on a à expliquer aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, inshallah, la suite de ces explications de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah au prochain cours, inshallah. C'est Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashab al-Jahim avec le ta'liq de Cheikh Al-Fawzan, commentaire de Cheikh Al-Fawzan. Et c'est un livre, en fait, il est consacré, il parle du début jusqu'à la fin d'un seul sujet, c'est le sujet de l'imitation, l'interdiction d'imiter les kuffars. Non, d'imiter les juifs et les chrétiens et autres. Donc c'est un livre très très important, et souvent les ulama, ils donnent beaucoup d'importance à ce livre-là, en particulier à notre époque, parce que on sait la situation actuelle des musulmans et comment yani les kuffars ont le dessus sur les musulmans dans beaucoup de pays. Wa alaykoum salam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, puis on continuera après le salat al-maghrib, on va faire le tafsir, inshallah, tafsir al-baqara. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.